et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance part sur les routes de la région. Au cours de cette saison radiophonique, nous vous invitons à parcourir les routes de la région Rhône-Alpes pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, cinquième émission de notre enquête régionale conservatoire et handicap, où en est-on ? Cette enquête nous conduit au sein de différentes écoles de musique, associatives ou municipales, de conservatoires de musique, soit rayonnement départemental ou régional de la région Rhône-Alpes, avec les équipes d'enseignants, la direction, les parents d'élèves, les élèves ou adultes en situation de handicap. Nous observons quelle est la situation en 2014. Comment les enfants ou les adultes en situation de handicap sont accueillis dans ces espaces de pratique musicale ? Comment cela se passe ? Comment favorise-t-on l'accueil du handicap en milieu ordinaire, dans l'école de musique, dans le conservatoire ? Octobre dernier, notre voyage en région nous a conduit au conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, à l'école de musique de Bassens, implantée au sein du centre hospitalier et de soins, ainsi qu'au conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-en-Bresse agglomération et au conservatoire Hector Berlioz, communauté d'agglomération de Bourgoin-Jallieu. Aujourd'hui, nous arrivons dans le Rhône, à Lyon, pour aller à la rencontre de l'équipe d'enseignants du conservatoire à rayonnement régional de Lyon, situé sur la colline de Fourvière, dans lequel cette émission a été enregistrée le 27 mars dernier. Et pour cette cinquième émission de notre enquête, j'ai le plaisir, et ça vraiment j'en suis très heureux, voilà, nous avons de très 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 nombreux invités à cette table. J'ai donc le plaisir d'accueillir notamment Nathalie Leverrier-Mellet, directrice adjointe du conservatoire. Bonjour.
Bonjour.
Également, Fabienne Baudin, coordinatrice des musiciens intervenants, et puis qui va nous parler plus particulièrement d'un dispositif des tisseurs de son.
Bonjour.
Bonjour. Également, Corinne Logier, qui est musicienne intervenante et qui occupe ici un poste aussi, on va dire, aussi important maintenant de coordinatrice handicap au sein du conservatoire.
Bonjour.
Bonjour. À ses côtés, Véronique Bouège. Et là aussi, professeur aussi au conservatoire, mais on va en parler plus à fond aussi tout à l'heure dans le lien avec le partenariat l'été musical, comment aussi des élèves aussi vont découvrir aussi cette pratique.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, une de ces étudiantes, voilà, on évoquait à l'instant que certains étudiants et étudiantes du conservatoire participent à ce type d'expérience. Et nous avons, et j'ai le plaisir d'accueillir, Charlène Perradin.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, nous continuons. Professeur de danse, donc, Marie-Estelle Payas aussi, et avec laquelle nous pourrons évoquer aussi comment ça se passe, finalement, d'accueillir des enfants singuliers au sein d'un cours de danse. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi également à côté Jean-Claude Long, professeur de piano.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Mais aussi des parents. Et également Jean-Yves Guillet.
Bonjour.
Bonjour. Et bien sûr aussi Nathan, qui est à ses côtés. Bonjour. Et enfin aussi Béatrice Rakotuvaoa, maman de Sitchaka.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Et puis nous aurons aussi, nous l'entendrons aussi tout à l'heure, Monsieur Wang et son fils Maxime, puisqu'on aura l'occasion d'entendre aussi dans cette émission un moment de musique interprété par Maxime au piano. Mais peut-être, Nathalie Leverrier, commençons ensemble. On sait que la loi de 2005 en fait obligation, bien sûr, de faire que tous les établissements publics, quels qu'ils soient, puissent accueillir tout un chacun, et cela veut dire qu'on soit valide ou en situation de handicap. Et là, cette obligation, elle fait que ça pose aussi une réflexion sur le fond, sur les objectifs, sur les enjeux aussi d'un établissement comme celui du C2R. Qu'est-ce que ça a changé à vos yeux depuis alors on pourrait revenir que, bien sûr, les pratiques artistiques avec tous ces publics existent depuis longtemps, mais là, il y a des enjeux majeurs qui se présentent. Comment vous le voyez, vous, depuis cette période ?
Alors, depuis quelques années déjà, 10-15 ans, il y a un partenariat régulier avec l'hôpital du Vénatier. Le conservatoire a une dizaine d'ateliers dans ce cadre. Et puis aussi, depuis pas loin de 10 ans maintenant, un partenariat avec l'association L'été musical. Donc ce sont des partenariats plutôt avec des personnes en situation de handicap mental. Et puis, petit à petit, le conservatoire a été sollicité par des personnes en situation de handicap, tout handicap, malvoyant, malentendant, handicapé physique, pour venir au conservatoire et pratiquer la musique. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions, prendre le temps de discuter ensemble, l'équipe enseignante, la famille, pour savoir comment on peut intégrer ces personnes dans les cursus du conservatoire.
Donc, du coup, c'est à la fois des partenariats, c'est à la fois des demandes individuelles, je dirais, qui ont fait que toute cette dimension, outre ce qu'on évoquait juste à l'instant au début, la loi en tant que telle, mais plutôt des initiatives, des acteurs, qui fait qu'aujourd'hui, cette dimension se retrouve présente au sein des préoccupations du conservatoire.
Oui, alors c'est vrai que c'est des sollicitations et puis c'est normal aussi. Moi, ça me semble tout à fait normal de vivre avec la différence. Et donc, pourquoi fermer les portes du conservatoire alors qu'elles peuvent être grandes ouvertes ?
Et ça, c'est une question très importante, effectivement. Alors, peut-être on pourrait poursuivre, justement, on évoquait les partenariats, et peut-être commencer aussi avec vous, Fabienne Baudin. Alors, vous coordonnez, bien sûr, les musiciens intervenants qui sont ici et qui rayonnent, bien sûr, sur la cité. Et en même temps, il y a un projet particulier, quand Nathalie Leverrier l'évoquait, justement, avec le Vinatier. Il y a aussi le centre de formation de musiciens intervenants en milieu scolaire, dont partie université également, qui est partie prenante, autour d'un dispositif tout à fait original, les tisseurs de son.
Voilà, donc c'est un projet donc, entre le centre de formation de musiciens intervenants, le Vinatier, le centre hospitalier du Vinatier, oui, représenté par la ferme du Vinatier, qui est donc le dispositif culturel au sein de l'hôpital, et le conservatoire. Donc les services en pédopsychiatrie de l'hôpital peuvent déposer un projet pour qu'il y ait des musiciens intervenants de l'équipe du conservatoire qui puissent intervenir au sein des groupes d'enfants. Donc voilà, ce sont des projets qui ont une durée entre de 1 à 3 ans.
Oui.
Voilà. Et nous avons 3 musiciens intervenants qui interviennent cette année dans 6 services sur la ville de Lyon ou de Bron. Et il y a un autre service dans lequel ce sont 2 étudiants du CFMI qui interviennent.
C'est-à-dire, du coup, ces musiciens intervenants interviennent dans des classes thérapeutiques ?
Voilà, dans des groupes, dans des centres de jour ou centres médico-pédagogiques. Et
ouais,
à l'unité de périnatalité de Rieu aussi, où c'est Corinne, du coup, qui intervient là-bas. Donc, ils interviennent régulièrement dans ces dispositifs, mais il y a aussi la possibilité que ces groupes d'enfants ou d'ados, parce qu'il y a un groupe d'adolescents aussi, viennent au conservatoire, soit assister à des concerts, c'est ce qui va se passer mardi prochain d'ailleurs, et viennent assister à des concerts donnés par des grands élèves ou des professeurs ici. Et il peut y avoir aussi, alors ça c'est un peu la particularité du fait des musiciens intervenants qui interviennent et dans les écoles élémentaires de la ville,
c'est
dans
ça,
ces centres qui sont souvent proche des écoles, enfin dans les mêmes quartiers,
dans les mêmes
où
quartiers,
ce sont les mêmes enfants parfois qui les fréquentent. Donc des échanges entre certains centres et enfin des projets dans les centres et dans les écoles.
Voilà. Du coup, là, il y a une rencontre, une mixité, en tout cas un mélange aussi qui va se faire grâce aussi à ces projets musicaux.
Voilà, sur certains projets musicaux communs. Donc avec des productions communes.
Ça veut dire que du coup, il y a une réflexion sur qu'est-ce que va être le projet entre les enseignants, les soignants, ces musiciens intervenants.
Voilà, ce sont les musiciens intervenants qui font surtout la jonction entre les deux.
C'est ça.
Puisque les enseignants déposent un projet de leur côté, l'équipe médicale de l'autre côté. Mais bon, souvent avec l'aide des musiciens intervenants. Donc on arrive justement à faire concorder.
Et c'est combien de projets musicaux qui, par exemple, vont être mis en œuvre là ?
Eh ben, cette année scolaire, nous avons donc 6 projets musicaux dans des services du Binatier.
Et qui, grosso modo, vont concerner combien d'enfants ?
Alors, il faut dire une petite dizaine dans chacun des ateliers, donc une petite soixantaine d'enfants.
Oui, ce qui est déjà, qui est déjà
important. Je pense au maximum une soixantaine d'enfants.
Oui.
Voilà, enfants ou adolescents.
Voilà. Alors, on voit aussi que pour ce projet, les tisseurs de son qui vient dans toute la continuité, et on voit l'importance et l'enracinement aussi des collaborations et des partenariats. On évoquait la ferme du Vinatier, le CFMI. On pourrait évoquer aussi les chœurs et solistes de Lyon. À un moment donné, dans ce projet qui a duré sur 5 ou 6 années, la Léo Navire à musique. Et du coup, on voit que c'est important. Enfin, en tout cas, c'est maillage. Hein, c'est-à-dire que du coup, il y a des initiatives, mais aussi comment du coup on va pérenniser finalement. Là, le conservatoire est une des chevilles importantes de cette pérennisation.
Voilà, la pérennité et puis aussi le fait de faire sortir les structures de leur lieu géographique, quoi, les faire aller vers d'autres structures culturelles. Ça peut être ici, ça peut être au CFMI ou aussi à la ferme du Vinatier qui organise aussi certains dispositifs culturels, enfin artistiques du moins, à des moments de l'année. Voilà. Et cette année, enfin, de plus en plus, voilà, les gens sortent, mais il y a aussi des grands élèves du conservatoire qui se rendent dans certains ateliers et toujours en lien avec le musicien intervenant pour apporter une autre couleur, on va dire, artistique à la séance.
Finalement, vous me faites la transition toute faite pour aller vers Véronique Bouège et puis aussi et également Charlène Perradin pour évoquer justement encore, Nathalie Leverrier l'évoquait tout à l'heure, des partenariats. Et là, c'est un autre partenariat avec une association départementale, l'été musical. Et c'est plus vous. Alors peut-être on peut évoquer aussi que Chantal Roussel enseigne ici, ou a été enseignante ici, je ne sais plus exactement pour elle, mais qui est la personne qui a fait que l'été musical existe et que et ce projet existe. Et peut-être, comment les choses se sont, je dirais, initiées, parce que c'est quelque chose de vraiment pertinent et intéressant, ce lien-là, Véronique Bouège, donc pour que du coup ça intègre un cursus de formation.
Oui, alors c'est vrai qu'au début, il s'agissait simplement de se rencontrer pour un concert de fin d'année. Et donc, c'était des groupes de musique de chambre qui intervenaient quelques séances auparavant pour faire connaissance avec l'atelier de Chantal et pour jouer sur scène. Et donc, on a vraiment renversé cette dynamique, c'est-à-dire qu'on a souhaité un atelier. Bon, d'une part, on est très passionnées toutes les deux par la création. Donc, on voulait vraiment que ce spectacle soit une création collective. Et du coup, c'est devenu un atelier hebdomadaire. Je pense que quand les étudiants du conservatoire viennent pour la première fois, ils ne savent absolument pas à quoi s'attendre.
Certainement.
Voilà. Et donc, c'est vraiment un moment de musique où tout le monde, chacun apprend, chacun apporte énormément de ce qu'il est. On pose l'instrument, on va devoir s'exprimer, improviser corporellement, vocalement, on va faire du théâtre. Je dirais que tous les participants sont à la même enseigne. On doit simplement être vrai. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend son instrument, c'est vraiment dans une dynamique tout à fait différente. Voilà. Et donc, c'est vrai que depuis que nous travaillons ensemble avec Chantal Roussel, ça fait 4 ans, je crois, c'est devenu une pratique hebdomadaire. On a donc des étudiants qui reviennent pour la 2e, voire la 3e année, tant ils sentent que ce travail repose sur une exigence et sur le long terme.
Et sur
un travail vraiment de long terme. Voilà.
Oui, moi je trouve que c'est extrêmement important ce que vous dites parce que du coup, ça amène à aussi finalement à ces futurs étudiants, quelle que vont être leur destinée d'ailleurs, instrumentistes ou pédagogues ou autres, que finalement, aller peut-être en rencontrant ces publics à l'essentiel de ce que peut être une expression artistique, voilà. Peut-être en dehors du décorum, il y a quand même être et trouver cette simplicité d'être. Voilà. Et c'est peut-être ce chemin qu'eux, ils nous amènent finalement à essayer d'approcher, même si on sait que c'est difficile pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de majeur qui se passe dans cette rencontre.
Tout à fait.
Alors Charlène, peut-être vos impressions à vous qui avez vécu alors encore sur ces expériences-là, ces moments forts, de moments de musique partagée et humain aussi partagé. Comment on vit ça alors?
Comme le disait Véronique, la première fois que j'y suis allée, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et vraiment, les premières fois... ils m'ont adoptée et moi je les ai adoptés et je suis revenue jusqà aujourd'hui. Voilà, et maintenant,
oui, parce que je crois que vous avez même terminé votre formation, mais vous continuez encore.
Oui, voilà. Donc, je suis toujours au sein du conservatoire et voilà. Et puis c'est un domaine qui m'intéresse vraiment parce que j'aimerais être musicienne intervenante aussi. Oui. Donc voilà, j'avais envie de voir un peu ce qui se passait, de découvrir comment Chantal et Véronique pouvaient travailler avec des personnes en situation de handicap, comment elles arrivaient à mener un atelier. Et voilà, je suis pas du tout déçue. C'est vraiment génial. Et chaque année, on a un concert. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un. On a un concert, un spectacle de fin d'année. Et voilà, je vous conseille vivement de venir.
Vous avez raison. Voilà. L'annonce est faite.
Je vous conseille vivement de venir parce que c'est vraiment un moment très, très fort. Et il y a une osmose entre toutes les personnes du groupe et entre les musiciens qui se retrouvent pas forcément avec d'autres instrumentistes ou voilà.
Nathalie Leverrier, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais intervenir sur le partenariat avec l'été musical, parce que ça, c'est une partie du partenariat. Avec l'été musical, depuis plusieurs années, les professeurs ont la possibilité de faire des stages de formation continue avec Chantal ou avec d'autres intervenants. Donc, il y en a eu plusieurs pendant plusieurs années. Et dans le cadre de l'atelier, là, les étudiants qui le souhaitent, alors c'est pas tous les étudiants parce que ça a un certain coût, mais certains étudiants vraiment passionnés font ce stage aussi de formation à l'été musical.
Très bien.
Avec des musicothérapeutes.
Et du coup, Charlène, j'imagine que vous échangez aussi avec d'autres étudiants, ou peut-être certains vous interpellent. Qu'est-ce que tu fais? Ou pourquoi tu vas là? Est-ce que ça questionne justement?
Beaucoup. Enfin, ils se demandent comment on peut gérer cet atelier et qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a de la chance d'avoir beaucoup de matériel au conservatoire, beaucoup d'instruments. Donc on touche vraiment à tous les instruments, aussi bien de percussion, on a contrebasse, des choses comme ça, donc c'est vraiment chouette. Mais après, c'est une autre dimension de la musique et je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour comprendre ce qu'on fait et comprendre comment on peut le faire aussi dans cet atelier.
Voilà, je trouve que c'est important ce que vous venez de dire, même essentiel finalement. Parce que c'est, quelle que soit la pratique artistique, finalement, elle contribue à ça. Et c'est un sacré fondamental quand on évoquait finalement la loi 2005, mais finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans une organisation? C'est ce que vous soulevez finalement, c'est une ouverture d'esprit aussi des choses et de savoir si on s'enferme dans un savoir ou si au contraire, on va essayer de cheminer pour aller rencontrer l'autre quelque part et s'ajuster pour que la rencontre s'accorde.
Ouvrir nos connaissances musicales pour un autre public et voilà.
C'est aussi, je pense, se poser la question où est la performance? Est-ce que la performance artistique est uniquement dans la technicité ou si elle peut être aussi dans l'expression artistique? Et là, on peut être dans l'expression artistique avec des moyens moindres, mais qui sont tout aussi forts.
Vu que l'on vient de justement d'évoquer les moments artistiques, on va peut-être inviter Maxime justement, qui nous fait vraiment le très grand plaisir, en tout cas, de pouvoir venir nous interpréter une pièce de Bartok, Microcosmos. Et bien, nous allons lui laisser la parole.
<t'->
Merci. Merci beaucoup, Maxime. Et du coup, j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Wang. Vous êtes le papa de Maxime. Formidable.
Oui, en fait, depuis, c'est vrai, depuis 2 ans et demi, et il pratique intensivement le piano classique. Avant qu'il soit intégré au conservatoire, oui. Il a pratiqué un peu piano jazz, en fait, au loisir.
Vous aviez un piano à la maison ?
Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr. On a découvert qu'il s'intéresse au piano à l'âge de 6 ans.
Ouais.
Et c'est vrai, en fait, je voudrais remercier en fait, le conservatoire et surtout aussi ses professeurs d'avoir vraiment un esprit très ouvert. Et en fait, Maxime souffre de l'autisme. Mmh. Et en fait, la principale difficulté des enfants autistes, c'est le problème de communication. Donc en fait, la question qui se pose, c'est comment apprendre, je dirais, un enfant, je dirais quelqu'un qui ne comprend pas tellement ce qu'on lui demande de faire. Mmh. Donc il faut imaginer des méthodes, adapter des méthodes à ces troubles. Et par exemple, dans le cas de Maxime, il faut que rendre l'enseignement soit très visuel. Et très visuel, ça veut dire, par exemple, pour lui apprendre ça, il faut jouer pas très fort, jouer au piano. Uh-huh. Il faut mettre des couleurs différentes et aussi des rythmes. Donc, tout un travail d'adaptation à faire.
Ça veut dire que vous êtes en concertation avec les professeurs ? Comment
bien sûr,
ça
se...
Vous sentez qu'il y a une problématique ? Alors, est-ce que vous assistez au cours ou comment...
Tout à fait ça. En fait, c'est mon épouse en fait, qui s'investit énormément pour l'accompagner. Et par exemple, mon épouse, depuis 2 ans et demi, c'est elle qui joue le rôle de AVS, auxiliaire vie scolaire, dans D'accord. le cours de solfège, par exemple. Donc, du coup, son professeur, Marie-Josée, bon, je ne l'ai jamais rencontrée d'ailleurs, hein, et donc elle est très ouverte à la présence de mon épouse dans son cours. Et également pour cours de piano, et son professeur est aussi tout à fait... je dirais, ouvert pour qu'on soit resté pendant le cours pour noter, pour filmer. Et ensuite, bien sûr, après, il travaille à la maison. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est tout le professeur probablement n'accepte pas forcément la présence des parents dans leur cours. Ça, c'est vraiment...
Ben, ça fait partie peut-être, Nathalie Leverrier, voilà, des souplesses, des lignes qui bougent, des compréhensions aussi que du coup il y a à chercher pour justement faire en sorte que le parcours qu'on puisse proposer à quiconque, et notamment à Maxime, bah, il puisse être cohérent et important.
Tout à fait. Alors après, c'est la présence des parents, c'est au cas par cas. Là, Maxime ne peut pas être en cours tout seul. Il a une AVS à l'école. Donc, il fallait une personne qui soit aussi présente pendant les cours au conservatoire. Pour le moment, on n'a pas cette possibilité d'avoir des AVS par le conservatoire. J'avais bien pensé à des étudiants qui pourraient être
des parrains,
tuteurs. Mais ça demande aussi beaucoup, beaucoup de temps.
Bien sûr.
Donc, sa rémunération, c'est quand même... c'est pas l'idéal pour ces étudiants qui s'impliqueraient beaucoup parce que c'est un véritable travail. Et puis là, la maman de Maxime joue très très bien ce rôle parce qu'à la fois elle est présente et elle sait aussi se faire discrète dans le groupe. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et après, il y a Corinne qui peut... Dans le cas de Maxime, Corinne n'est pas vraiment intervenue, mais elle peut aussi intervenir, voilà, s'il y avait possibilité. Enfin,
voilà, ce qui nous permet d'évoquer maintenant aussi, parce qu'on ne l'a pas forcément dans tous les conservatoires non plus, hein, dans la réflexion de comment les choses peuvent s'organiser, être facilitées, avec les mises en place aussi d'un poste de coordinatrice handicap, ce que vous êtes, Corinne Logier, maintenant. Et donc, c'est une fonction importante, finalement, on vient d'entendre ce témoignage de Monsieur Wang, donc on voit bien aussi que chaque professeur, d'une part, peut être confronté à différentes appréhensions quand il reçoit un élève. Du coup, alors, finalement, votre rôle, à la fois, c'est de pouvoir apporter un conseil, un soutien aussi aux professeurs, accompagner les familles. Sur quel registre un petit peu se situent les choses ?
Alors, j'interviens sur plusieurs registres. Donc, tout d'abord, j'interviens soit à la demande du professeur, soit à la demande du conservatoire, qui se fait le relais des familles, lorsque les familles ont une demande. Donc au niveau des professeurs, mais je peux... peut venir rencontrer l'enfant dans son cours, l'élève. Donc bien sûr, le spécialiste de la matière, c'est le professeur. Par contre, moi, j'interviens pour apporter un regard extérieur, pour apporter aussi les connaissances et l'expérience que j'ai au niveau du handicap. Et donc, je réfléchis avec le professeur sur la meilleure façon de s'appuyer sur les points forts de l'enfant et ses compétences, et comment adapter son cours. Par exemple, au niveau des conditions matérielles, ou également sur des petits points techniques qui peuvent apporter plus de souplesse à la pédagogie du professeur. Voilà, c'est plutôt un rôle de conseil et de réfléchir ensemble. Finalement.
Oui, c'est important parce que, il y a quelques jours, j'étais au conservatoire de Perpignan et beaucoup de professeurs évoquaient l'accueil, justement. C'est-à-dire que quelques-uns, quelquefois, se trouvaient à découvrir du jour au lendemain. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais finalement, un enfant porte la trisomie 21 d'être assez surpris, de ne pas forcément être accompagné, justement, dans la présence d'un élève aussi dans sa classe. Donc, on sent bien aussi, alors, bien sûr, l'accueil des familles, et ça, il me paraît fondamental. C'est-à-dire que vraiment, il y a le travail d'un accueil. Qu'est-ce que c'est que l'accueil, finalement? Autour de quoi il s'organise? Et c'est là où votre rôle est important, effectivement.
Oui, tout à fait. Alors, au niveau des familles, c'est que, du coup, il y a une personne vers qui peut se tourner la famille et une personne qui va centraliser les informations. Il faut savoir que les cursus sont très complets au conservatoire et que les élèves ont de nombreux professeurs dans de nombreuses matières. Et donc, il y a le cas un petit peu particulier du professeur d'instrument ou du professeur de danse qui est un interlocuteur privilégié et qui souvent consacre du temps aux familles pour échanger en direct, mais il faut savoir qu'il y a également beaucoup de cours collectifs. Les professeurs mettent beaucoup d'énergie et de volonté pour justement accueillir ces enfants différents. Il faut savoir qu'ils ont également tous les autres élèves et la charge du groupe. Et il est parfois un petit peu difficile pour le professeur de faire ce lien pour cet enfant-là, mais également pour tous les autres élèves qui demandent aussi des liens particuliers, puisque c'est une somme d'individualité, un groupe. Et donc, mon rôle, c'est aussi de centraliser les informations, de par exemple donner des informations sur l'état de santé. Les familles me font des retours, me disent ce qui s'est passé. Et moi, ensuite, je peux diffuser l'information au professeur et me faire le relais, ce qui permet d'une part aux familles de gagner du temps, au professeur d'avoir l'ensemble des informations de façon assez rapide et de créer une cohésion au niveau de l'équipe. Nous sommes une équipe pédagogique et du coup ça permet de faire en sorte que tout le monde ait l'information et tout le monde travaille sur les mêmes bases. Donc je pense que c'est important de créer ce lien avec les familles.
Et puis vous avez important que c'est de soulever effectivement que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que du coup qu'on ne fasse pas en sorte que parce qu'un tel professeur ou tel autre accueille des personnes en situation de handicap et du coup qu'ils deviennent des spécialistes et que même si c'est peut-être pas toute l'équipe qui est concernée, petit à petit c'est comme une équipe dans sa globalité peut petit à petit elle aussi être partie prenante de ce qui se passe, de cet accueil et puis peut-être participe quand vous évoquiez les autres enfants et ces singularités présentes dans un même cours, finalement c'est une approche de la diversité et que l'hétérogénéité c'est pas forcément quelque chose de problématique, c'est simplement, on parlait d'état d'esprit tout à l'heure, l'ouverture d'état d'esprit et que c'est des dimensions un petit peu à changer et peut-être je vais continuer parce que du coup on va évoquer la danse puisque là on était dans la musique et du coup avec vous Marie-Estelle Payas et vous êtes professeure de danse ici et vous avez eu aussi à accueillir dans votre cours et à travailler et encore bien sûr aujourd'hui à travailler notamment avec plutôt dans le handicap sensoriel.
Pas que. On a déjà eu des enfants avec des problèmes. Une petite fille qui était née avec un avant-bras en moins. Enfin, des choses un petit peu particulières. Et alors le problème, c'est que quand on est prof de danse, comment on fait avec ces enfants qui sont dans un cours collectif, donc qui sont mêlés avec tous les autres petits enfants qui doivent tous en fin d'année passer leur même examen, qui doivent travailler avec tout le monde en même temps. Comment on fait? Alors moi, je fais appel à mon bon sens et à ma sensibilité parce que parce que voilà, c'est particulier. Chaque enfant est différent, chaque tout enfant est, a ses petits défauts, c'est les choses qui vont un petit peu moins bien que les autres, donc faut faire avec. Et puis finalement, ça se passe pas si mal, ça se passe plutôt bien, parce que les enfants, c'est des enfants, et que si on arrive à faire abstraction de ça, eh bien, notre rôle de prof, c'est aussi de trouver les moyens qu'on n'a peut-être pas appris quand on a fait nos formations de prof de danse ou de prof d'instrument, eh ben, c'est de trouver les moyens, de les inventer peut-être pour que les enfants arrivent à cheminer exactement pareil que les autres. J'essaie de ne pas faire de différence et finalement j'y arrive bien. J'essaie de ne pas faire de différence dans mes cours entre les enfants qui ont un petit peu moins de facilité que les autres. Et on chemine. Alors parfois je me pose des questions, hein, parce que c'est pas toujours évident.
J'imagine amplement.
Voilà. Et alors on.
Mais vous pouvez échanger avec d'autres. Oui, c'est ce qui se passe.
Alors j'ai pas eu tellement l'occasion d'échanger avec d'autres collègues parce que voilà, moi c'est le prof de danse et voilà, on n'a pas toujours des. Hein. Par contre, avec Corinne, qui a été d'une aide absolument super, parce que moi, elle est venue avec l'aide de Nathalie. C'est Nathalie qui nous a fait nous rencontrer. Et elle est venue un jour assister à mes cours et elle m'a donné plein de tuyaux pour m'aider à faire un petit peu différemment avec mes enfants. Donc c'est vraiment une richesse parce que on est un peu démunis quand même quand on est on connaît tous bien son travail, mais son travail avec des enfants qui ont des petits handicaps ou des choses qui sont particulières, c'est pas toujours facile.
C'est sûr que le différent fait travail, il y a une espèce de tension, il y a un écart qui se provoque et puis il nous met en mouvement, il nous met en branle finalement.
Complètement. Et puis il y a le phénomène de groupe aussi, il faut faire attention que l'enfant qui est un peu différent soit quand même bien intégré au groupe, ne soit pas rejeté. C'est tout un processus auquel il faut s'adapter. Mais ça se passe bien et c'est en général, franchement, c'est des enfants qui ont une autre sensibilité. Et cette petite sensibilité différente, on est à même à la développer encore plus.
Et vous sentez que ça joue justement sur le collectif, sur les autres enfants qui sont là et qui
il y a
un état d'esprit qui...
Ah ben complètement, oui. Mais ils sont pas différents finalement, hein, les uns des autres. Vraiment.
Voilà, c'était l'extrait d'un jeune compositeur. Enfin, maintenant, à force de dire que c'est un jeune compositeur, Carl Nejelen, il avance quand même aussi un petit peu, mais il est passé aussi par le conservatoire ici, avant d'aller au conservatoire supérieur aussi de Lyon, de faire la classe de composition et de faire son métier aujourd'hui de compositeur. Et puis, finalement, on a écouté aussi cette petite pièce très courte d'un disque qui s'appelle Oval, justement, un magnifique disque, en tout cas, je vous conseille d'aller le visiter et d'y revenir. C'est aussi que Carl Nejelen aussi s'intéresse aussi à tous les publics en tant que compositeur et qu'il a écrit à plusieurs reprises justement aussi des œuvres aussi mélangeant musiciens invalides, musiciens en situation de handicap. Et donc là, quand on parlait d'ouverture, d'état d'esprit, là aussi c'est intéressant de voir aussi que les compositeurs aussi d'aujourd'hui s'intéressent à aller au plus proche de chacun. Et là, avec Carl Nejelen, c'est bien le cas. Alors, on continue. On a eu le témoignage de Monsieur Wang, un autre parent, et très heureux de pouvoir vous accueillir là aussi. Jean-Yves Guillet, là tout ce que vous venez d'entendre, parce que on va évoquer bien sûr avec Nathan qui est avec nous. Hein. Bonjour Nathan à nouveau.
Bonjour.
Voilà, très heureux de t'avoir parmi nous. Et tu fais de la danse.
Oui.
Voilà. Alors dans votre cours, hein, avec Marie-Estelle, comment ça se passe alors un peu ces cours de danse?
Comme l'a dit Marie-Estelle, je n'ai pas vraiment trop de différence avec les autres danseurs.
Oui.
Ça se passe comme dans un cours habituel, comme s'il n'y avait pas d'handicapé.
Voilà.
Donc, je m'habitue et ça va.
Et c'est important de danser pour toi? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses, toi? Ça fait quoi?
Comment dire?
Ah, c'est une question délicate, hein, j'en suis bien d'accord. On se sent bouger, il y a quelque chose à l'intérieur.
ça se passe comme tous les cours sont pareils, que ça soit le matin ou l'après-midi. Donc, je trouve qu'il n'y a pas vraiment trop de différence dans chacun des cours.
Ouais. Tu fais combien de temps de danse par semaine ?
9h30 à peu près.
Oui, donc oui, c'est
9h30.
Voilà, dans cette, c'est déjà un temps important, en tout cas par semaine, déjà de travail. Et t'as envie de devenir danseur, c'est, non, ou c'est pour le moment quelque chose, voilà, t'aimes danser, t'aimerais aller plus loin dans...
Pas tellement, pas mais tellement. Pour l'instant, je préfère danser comme je le fais tout, pour l'instant.
Voilà, la danse pour l'instant, ah, c'est joli en tout cas ça. Et son papa, Jean-Yves Guillet, vous êtes, voilà comment on l'évoquait avec Monsieur Wang. Comment vous êtes venu finalement à faire que Nathan s'inscrive au conservatoire, vienne ici à la danse. Quelle a été votre démarche ?
Alors, pardon. La démarche, c'est que Nathan, il ne le dit pas là, mais il était passionné de danse.
Ah, voilà.
Parce que c'est vrai que déjà tout petit,
on le soupçonne.
À 4 ans, il est venu me dire je veux faire de la danse classique. Alors, moi, je suis rugbyman, alors.
C'est vrai. Ce que tu notes gestuelle, en tout cas.
Mon garçon, je l'espérais faire un peu de rugby, quoi.
Oui, bon, pourquoi pas.
Non, il a pas fait du rugby, il a fait. Alors, j'ai temporisé un peu, et ouais. Vers 7 ans, il m'a renouvelé cette demande.
Ce désir et cette demande.
Donc, je l'ai inscrit au cours de danse classique, et en sortant du cours, le premier, je le revois encore, il me dit, ah, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire.
Et vous êtes venu tout de suite au conservatoire, non, parce que vous auriez pu aller ailleurs. Ah,
non,
d'accord.
Non. Voilà. Non, on est allé d'abord dans le conservatoire qui est à côté de chez nous.
Oui.
Tout simplement, on n'a pas visé tout de suite le conservatoire régional, on ne s'est pas permis cette chose-là. Et puis, donc à 7 ans, et depuis quelques années, ses professeurs disaient qu'ils détectaient quelque chose chez Nathan. Donc c'est vrai qu'on nous a fait une première demande en CM2, on disait que ce serait bien qu'au CM2, il aille au conservatoire. Nous, on était réticents parce qu'il était handicapé. Alors, ça, on s'en aperçoit pas parce que Nathan est sourd, il a une surdité dégénérative.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au fil des années, il entend de moins en moins.
De moins en moins.
Et là, dernièrement, il a été opéré pour avoir un implant cochléaire.
D'accord.
Voilà. Donc ça a engendré plein de,
bien sûr.
De conséquences.
De conséquences, oui.
Quand on a commencé à venir au conservatoire, on ne savait pas qu'il allait être opéré. C'est vrai qu'on avait... Dans l'avenir, on nous a dit, dans l'avenir, ça allait arriver. Et malheureusement, c'est arrivé...
Plus vite que vous ne le pensiez.
Voilà,
quoi.
La deuxième année. Et c'est vrai que je veux bien remercier le conservatoire, parce que dès qu'on en a parlé, ils ont été à l'écoute, c'est le cas de le dire. Et tout de suite, ils nous ont entendus, parce qu'on avait des spécificités. Des spécificités, parce que Nathan est appareillé d'un appareil auditif, mais le professeur aussi.
Ah.
Donc, ce qui complique la tâche du professeur, il faut être honnête, parce qu'en danse, on n'a pas l'habitude d'avoir de micro. Et c'est vrai que pour montrer les mouvements, c'est un appareil qui est relativement portatif,
mais pas forcément
facile
à
apprivoiser, si j'ose dire. Donc, il a fallu aussi cette démarche du professeur, des professeurs qui s'y sont tous mis.
Pour pouvoir être sûr que la transmission puisse se passer
parce
tranquillement.
Que, c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas ce micro.
Bien sûr.
À l'occasion d'une porte ouverte, on s'est aperçu que notre fille était un peu en décalage des autres, simplement à cause de l'information qui arrivait plus tard.
Qui arrivait beaucoup plus tard.
Donc lui, il avait compensé autrement, mais il y a un moment, il ne pouvait plus. Donc là, c'est vrai que grâce aussi à Madame Logier, qui
donc vous en avez, vous avez échangé ensemble.
Pour nous, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de Nathan, en disant oui, mais qui pensait autrement, parce que même nous, parents, on a l'habitude, parce que Nathan, c'est depuis 5 ans qu'il a cette pathologie. On a beau le connaître, eh bien, elle nous a apporté plein de choses que nous, on n'avait pas vues non plus. Ce qui est quand même le comble pour un parent.
C'est sûr, on a tous, mais d'ailleurs, que ce soit le professeur, on porte un regard sur ceux qui nous sont proches et quelquefois on oublie, parce qu'on n'a qu'une perception ou certaines perceptions, puis il y a d'autres facettes qu'on ne connaît pas. Et finalement, à un moment donné, peut-être que là, la danse, le voir le faire, c'est révélateur d'autre chose, d'une autre facette de cette personnalité et de ses autres potentiels. Également.
Voilà, c'est tout à fait. Et on a senti l'équipe au niveau du conservatoire. C'est-à-dire que c'était pas personne qui s'occupait que de Nathan, que son professeur principal. On a bien sûr discuté avec Madame Le Verrier, qui a tout de suite pris les mesures. Et puis après, on sentait bien que ce soit pas simple pour les professeurs, parce qu'il y a
on est bien d'accord.
Il y a certains professeurs qui disent c'est peut-être pas utile. Moi, avec moi, il entend très bien.
Oui, voilà,
parce
c'est
que
ça.
C'est une chose qui est pas visible, comme vous avez pu entendre. Il parle correctement.
Tout à fait.
Il répond plutôt bien.
Absolument.
Donc c'est pas aussi apparent de voir qu'il est en difficulté. C'est ce qui est un peu.
Donc on a besoin de toutes ces observations des uns et des autres.
De toutes ces personnes et de toutes les informations pour arriver à progresser.
C'est bien une complémentarité.
Tout
alors,
à fait.
Peut-être pour continuer dans cette complémentarité, un autre professeur, avec vous, Jean-Claude Long, où vous aussi, vous avez dans votre classe, vous accueillez certains enfants en situation de handicap.
Oui, donc je travaille avec Sid Chaka.
Donc nous avons la maman juste à vos côtés.
Qui est donc diagnostiquée autiste léger. Hein, voilà. Et en fait, dans son comportement en cours et dans la pratique pédagogique que j'ai avec lui, pour moi, il n'y a pas une énorme différence avec les autres enfants. Simplement, il faut contacter un petit peu plus la famille.
Oui.
Hein, c'est pour ça tout de suite, j'ai eu des contacts avec notamment la maman de Sitchaka qui vient un petit peu plus fréquemment en cours que les autres enfants pour faire le lien.
Donc vous avez modifié l'organisation un petit peu.
Pas tellement. Il est en équipe avec une autre élève. On a gardé ce système. Je me suis demandé à un moment donné s'il fallait arranger ça d'une autre façon, mais en fait le tandem marche aussi dans le cas de Sitchaka. Enfin, disons il y a une démarche de communication qui est peut-être plus importante. Il faut beaucoup rassurer les parents, en fait, leur dire que tout va bien.
Parce qu'il y a peut-être des peurs aussi que ça demande trop d'attention, qu'on développe plein de choses, enfin il y a plein d'appréhensions.
Oui, enfin, alors, donc au départ, la maman de Sitchaka m'avait expliqué qu'il fallait se méfier des mots avec Sitchaka, de ne pas rentrer dans des explications théoriques trop compliquées.
Peut-être, madame, si vous voulez, à ce moment-là, vos sensations, comme si on rebondit ensemble.
Alors, Sitchaka a le syndrome d'Asperger.
Oui.
C'est dans le domaine de l'autisme. Et disons que les personnes qui ont le syndrome d'Asperger, par rapport aux autistes, ont des caractéristiques plus atténuées, si vous voulez. Mmh. Et ils se montrent capables de fonctionner à un niveau bien supérieur dans certains domaines. Alors, les enfants, je vais faire un tour un peu sur le syndrome d'Asperger. Ils sont incapables de communiquer efficacement. Ils ont des difficultés dans la communication sociale avec les autres. Ils n'ont pas d'empathie. Ils ont du mal à faire face au changement. Entre autres, ils semblent avoir il manque d'imagination sociale et ils ont un intérêt intense dans un domaine particulier. C'est là où je voudrais en venir. Et nous, on avait remarqué pour l'instant que c'est dans la musique.
C'était dans la musique que ça focalisait
son attention. Voilà.
Donc du coup, on mesure bien que cet échange entre les parents et vous, c'est crucial.
Oui, c'était indispensable.
Indispensable, voilà.
Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en fait, pour nous, en tant qu'enseignants, je trouve que travailler avec des enfants comme Sitchaka, c'est aussi, ça nous apporte beaucoup parce qu'on réfléchit sur notre pratique pédagogique.
Bien sûr.
Et finalement, chaque enfant est différent. Pour moi, Sitchaka n'est pas plus différent qu'un autre. Hein.
Parce que vous étiez déjà dans cet état d'esprit quand vous accueillez un de vos élèves.
C'est vrai qu'on doit s'adapter à chacun. C'est vrai que dans le cas de Sitchaka, bien que au début, ça m'a un petit peu perturbé cette histoire de communication orale.
Oui.
Parce que, peut-être que je parle beaucoup trop dans mes cours, c'est possible. Et surtout, j'ai tendance à employer des métaphores, des images, ce qui est parfois très mal vu par les formateurs du CFEDEM. Moi, je continue à...
Vous continuez la métaphore.
Je continue la métaphore, mais elle doit être accompagnée d'explications techniques.
Effectivement.
Et dans le cas de Sitchaka, cette question de métaphore, ça marche très très bien avec lui. Il est extrêmement réceptif, c'est une véritable révélation. Les images, pour lui
voilà, ça résonne et ça fonctionne.
Et ce que j'étais amené à constater aussi, à employer, c'est que tout ce qui est tactile, sensoriel, marche très très bien. Parfois, une explication technique, c'est pas la peine, il suffit de jouer sur son épaule ou de lui montrer un geste et ça va très bien marcher. Comme ça. Et puis, sinon, c'est vrai qu'il a développé pas mal de. Il a une particularité en bien, c'est que pour un enfant quand même jeune, il a énormément d'oreilles. Il a notamment l'oreille harmonique, c'est-à-dire le vertical.
Bien sûr.
Ce qui est rare à cet âge. Quoi. Bon, peut-être qu'il a connecté des neurones que d'autres ne connectent pas, hein, peut-être.
Peut-être tout à fait possible. Voilà. Voilà, c'était ITER, à nouveau donc une petite pièce brève de Karl Negelen. Peut-être Nathalie Leverrier, avec toute cette richesse justement que l'on vient de partager ensemble autour de cette table et à ces micros, finalement aussi ce qui va se poser, on le comprend déjà avec les échanges, les appropriations de chacun, les réflexions que ça impose, c'est du coup comment va s'organiser finalement au fur et à mesure de la présence de tous ces élèves au sein des différents cours de piano, peut-être après des cours de pratique collective, après peut-être autour des ensembles, finalement comment va s'organiser ce vivre ensemble musical finalement, cette mixité, si je peux employer ce terme que peut-être j'aime plus ou moins bien, mais en tout cas, comment vous voyez les choses un peu s'organiser petit à petit avec cette présence à l'intérieur qui, on espère d'abord, va peut-être s'amplifier, va peut-être se démultiplier, mais du coup, quel parcours différencié, quel parcours cohérent on peut peut-être proposer à l'ensemble de ces élèves ?
Alors, c'est vrai que moi, je pars du principe qu'on doit tous vivre ensemble. Donc, je travaille plus dans le sens où on va accueillir ces élèves dans les cursus du conservatoire et non créer des ateliers spécifiques. Bon, ça peut aussi avoir ses limites.
Son intérêt, hein, et ses limites, bien sûr.
Voilà.
Dans les deux sens.
Les deux sens. En tous les cas, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment qu'on vive ensemble. C'est vrai que ça fait, pour moi, j'ai pas de souci avec la différence, donc je trouve ça tout à fait normal de qu'on soit ensemble. Ça apporte beaucoup,
Du coup, ça va interpeller une organisation, ça va interpeller une pédagogie, ça va interpeller une vision de la musique aussi, peut-être.
En fait, c'est chronophage en temps.
C'est certain.
Dans le sens où on prend plus le temps d'accueillir les familles, de les mettre en contact avec plusieurs personnes, rediscuter, refaire le point.
Peut-être c'est vrai qu'un établissement de comment peut-être on devrait même chercher ailleurs à continuer de fonctionner ensemble. Peut-être ça va même au-delà de ça finalement. Donc vous dites prendre le temps d'échanger, prendre le temps de pouvoir se dire tiens il y a cette problématique mais on peut la résoudre ensemble. Donc c'est un facteur effectivement. On parle beaucoup d'accélération aujourd'hui de notre quotidien, de notre temporalité. Ça nous renvoie peut-être aussi à ça, à notre manière de vivre aujourd'hui et que peut-être ça demande plus de temps pour justement prendre en compte l'autre.
Exactement. Ça va complètement à l'encontre de l'accélération du temps.
C'est ça,
c'est clair. Ça prend beaucoup de temps et il y a toujours. On a parlé de la notion d'équipe, mais c'est vraiment une équipe. On ne peut pas intervenir tout seul. Il faut vraiment prendre plusieurs paramètres en compte. Et c'est vrai que on ne pourrait pas dans un établissement comme le nôtre où il y a plus de 2000 élèves, c'est difficile de prendre le temps pour chaque élève. c'est vrai que chacun a ses particularités. On va très vite avec certains et il faut aller moins vite avec d'autres. Et c'est aussi respecter le rythme d'apprentissage de chacun.
Et ça me paraît essentiel, effectivement.
Voilà. Donc, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous regroupés et qu'on est tous dans le même bateau.
Ça veut dire que peut-être comment d'autres collègues, d'autres enseignants vivent aussi cette présence aujourd'hui qui est quand même reconnue, installée dans l'organisation, qui prend sa place, on va dire.
Elle prend au fur et à mesure sa place. Voilà. C'est encore un peu discret, un peu trop discret à mon goût dans l'établissement. Mais c'est vrai aussi qu'on a des collègues qui peuvent se retrouver en situation délicate.
Oui.
C'est vrai que dans le cadre des formations, le rapport à la différence n'est pas toujours travaillé. Et puis, on est tous inégaux par rapport à cette différence. Et il y a un gros travail à faire de formation et d'information auprès des enseignants. Du coup, cette émission, pour nous, c'est une façon d'avancer. Et on a mis en place un forum sur le site du conservatoire.
Hein.
Voilà, ça se met en place grâce à l'émission. Et donc, ça va être aussi une façon d'échanger entre nous sur toutes les problématiques que l'on peut rencontrer. Donc là, je dirais que ce matin, on est plutôt avec des handicaps lourds où il faut vraiment un accompagnement dans les cursus. Mais il y a tous les 10 dont on ne parle pas là ce matin, mais qui ce sont des élèves qui sont scolarisés de façon tout à fait normale, mais qui retrouvent aussi ces difficultés dans l'apprentissage de la musique. Donc il y a vraiment tout un travail d'information et de formation.
Et parallèlement à ça, je sais qu'aussi, on est ici sur la colline de Fourvière, mais vous avez des antennes. Effectivement, ici, le bâti ne permet pas d'accueillir tout le monde, mais vos antennes, voilà, c'est une manière aussi de dire qu'il y a une réflexion d'ensemble aussi par rapport aux accès. Et qu'on peut, peut-être on ne peut pas accueillir, je donne l'exemple par exemple en fauteuil, peut-être quelqu'un ici, mais dans une des antennes située aussi au cœur de la cité, il y a la possibilité par exemple.
Tout à fait. Alors c'est vrai que le site de Fourvière est très très mal conçu pour accueillir les personnes en mobilité réduite.
Oui.
On n'a pas de plein pied, donc même pour entrer dans notre salle de concert, il y a 5 marches. Donc c'est
tout de suite
très, très compliqué.
Complication, ouais.
Voilà. Néanmoins, on a une antenne en centre-ville qui a eu des aménagements parce qu'elle est dans une école et que la ville de Lyon est en train de mettre aux normes tous les
Ça, c'est la loi aussi, on évoquait en tout début d'émission la loi 2005. Oui. On sait qu'on va être en retard en 2015, que le gouvernement est en train de réfléchir au décret parce que du coup, beaucoup vont se trouver entre guillemets hors loi puisqu'ils ne seront pas accessibles. Mais donc, du coup, il y a des réflexions sur les décrets à venir pour justement permettre la continuité de ces accessibilités du bâti.
Donc pour nous, c'est un réel problème. Alors, on le contourne avec les antennes, mais si on veut... L'année dernière, on avait un élève en fauteuil roulant en cycle découverte. Quand il venait au concert de présentation d'instruments ou aux présentations danse, c'était très compliqué pour les parents d'accéder à cette salle de concert. C'est toujours... J'ai bien conscience qu'on ne donne pas la possibilité aux familles de pouvoir venir au conservatoire de façon normale et facile.
Si on élargit pour terminer, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je sais aussi que peut-être l'ensemble des conservatoires, en replaçant bien sûr un peu d'ailleurs le cheminement de cette émission en région, on sent qu'il y a quand même une dynamique de vos collègues de direction, en tout cas des autres établissements. Je pense à ceux que j'ai cités tout à l'heure, d'Annecy et autres. Vous sentez là aussi qu'il y a une progression, il y a une évolution de prise de conscience de la part des différents directeurs d'établissements pour justement réfléchir ensemble, peut-être coordonner des actions, expérimenter ensemble.
Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, avec cette loi, tout le monde a été remis en face de ses responsabilités.
C'est vrai aussi.
Ça permet d'avancer tous ensemble et il faut bien qu'on crée des espaces de réflexion pour pouvoir échanger et progresser dans la façon dont on va accueillir toutes ces personnes différentes.
Voilà, on peut noter que, par exemple, il y a l'arc alpin ou entre ceux de Savoie, Isère, et peut-être que vous y participez aussi, se réunissent de temps en temps, justement, et essayent d'aborder ces questions, en tout cas.
Alors, je ne suis pas encore intervenue avec l'arc alpin, mais c'est vrai que dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu beaucoup l'occasion de réfléchir... avec l'été musical, on a souvent discuté, donc les partenaires, hein, le CFMI qui est le centre de formation des musiciens intervenants, mais qui est à l'intérieur de l'hôpital du Vinatier. Donc c'est ce sont des préoccupations, exactement. Le fait qu'un centre de formation soit à l'intérieur d'un hôpital, ce n'est pas anodin non plus.
Complètement. Comme quand on est allé visiter l'école de musique de Bassins au sein, là aussi également, d'un hôpital. Là aussi, les lignes deviennent beaucoup plus aussi poreuses et aussi ça remet aussi en mouvement les pensées, les organisations et les systèmes de fonctionnement, effectivement.
En tous les cas, moi, je pense qu'au conservatoire, on en est au balbutiement pour le moment et qu'on a beaucoup, beaucoup encore à travailler pour avancer tous ensemble.
En tout cas, on était heureux de pouvoir ici venir témoigner que peut-être, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être une image de conservatisme, des fois des conservatoires, et qu'en réalité, quand on vient un peu de regarder d'un petit peu plus près, ben, c'est très en mouvement, il se passe beaucoup de choses. Et si cette émission, en tout cas pour ici, peut témoigner que à Lyon, avec là où on en est, avec les volontés qui sont là, il s'y passe beaucoup de choses et qu'il y a une réelle volonté de faire bouger les choses et ça, il faut le saluer. Donc nous arrivons au terme de cette émission enregistrée le 27 mars dernier, je le rappelle, ici au Conservatoire de musique de Lyon. Je vous remercie à nouveau, Nathalie Leverrier, pour nous avoir facilité, en tout cas, et puis le directeur bien évidemment aussi du Conservatoire, d'avoir accepté d'ailleurs que le principe que cette émission se déroule ici, et puis bien sûr aussi tous les participants autour de cette table. Merci également à l'équipe technique de Résonance Contemporaine, Simon Deborne à la technique et à la réalisation, Laurent Cusin à la régie générale. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou pour écouter également votre radio préférée qui est Radio Tropique, en direct ou en différé, podcasté et connaître la grille des programmes, vous pouvez vous rendre sur www.tropiquefm.fr. Voilà, nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci de votre confiance et de votre curiosité. Espérons vous retrouver lors de nos prochaines émissions. À très vite.